And finally this evening, we reported yesterday how Archbishop Emmanuel Malingo of Zambia had been excommunicated for attempting to ordain four married men. Father Michael Hilbert, Dean of Canon Law Faculty at the Pontifical Gregorian University, explained what excommunication from the church actually entailed.
Excommunication is a penalty, it's a censure, by which a person is excluded from the communion of the faithful. And it brings with it a certain number of consequences. The code limits itself to giving the effects, which are the deprivation of certain spiritual goods of the church. And they cannot receive the sacraments. That is one of the goods that is deprived, the sacraments. It's not used really very, very often at all. It's very rarely used, I would say.
And that was Father Michael Hilbert.
Laudetur Jesus Christus.
Vous écoutez Radio Vatican, il est 18h.
Vatican Radio, World News, French and English edition.
Bucarest, capitale de la francophonie, la Roumanie accueille demain le sommet international, une grande première pour le pays futur membre de l'Union européenne. Le président français Jacques Chirac est sur place ce soir. La France revalorise les pensions de ses anciens combattants des colonies, mises au niveau des nationaux français. Un acte de justice, dit-on à Paris. 80 000 personnes sont concernées. Nous verrons les premières réactions direction le Maroc dans ce journal. Trois présidents à Washington ce soir. Le chef de la Maison-Blanche, George Bush, accueille ses homologues pakistanais et afghans. Il va tenter d'apaiser les divergences entre les deux leaders et relancer ainsi la lutte contre le terrorisme. En fin de journal, gros plan sur un fléau méconnu, la cécité des rivières qui frappe de nombreux pays d'Afrique, notamment. Une grande conférence internationale est en cours à Yaoundé, au Cameroun, pour tenter d'endiguer la maladie.
Le journal, Jérémy Brossard.
Bonsoir à tous. La Roumanie est donc à l'honneur cette semaine au lendemain de l'annonce de son adhésion à l'Union européenne au 1er janvier prochain. Le pays accueille demain le sommet de la francophonie. Ce sont les derniers préparatifs ce soir à Bucarest. Et c'est d'ailleurs une très grande première pour la Roumanie. Écoutez François Renaud, homme d'affaires français implanté dans le pays depuis une dizaine d'années. On l'écoute.
C'est clair qu'il n'y aura pas d'événements plus important pour la Roumanie que cette réunion de 60 chefs d'État. La Roumanie ne peut pas accueillir des Jeux Olympiques, ne peut pas accueillir des Coupes du Monde de football, ne peut pas accueillir un événement et n'accueillera pas sans doute avant 10, 15 ou 20 ans un événement politique aussi prestigieux. C'est effectivement l'occasion de présenter une Roumanie qui souvent dans les médias a plus fréquemment été critiquée que présenté sous un jour favorable.
Alors on entend dire que la Roumanie représente un pôle majeur de la francophonie en Europe. Pourquoi ?
Bah, si vous voulez, la Roumanie a déjà des liens historiques avec la France. Le code Napoléon était en vigueur il n'y a pas si longtemps encore en Roumanie. C'est quand même la preuve que la Roumanie a toujours été liée, de par son histoire et de son côté linguistique, à la France.
Voilà des propos recueillis par Romilda Ferrotto. Alors demain, donc, une trentaine de pays seront représentés en Roumanie, avec cependant un grand absent, le Liban, ou plus exactement le président pro-syrien Emil Lahoud, dont l'entourage accuse la France d'être à l'origine de cette absence à Bucarest. C'est mon choix personnel, a fait savoir aujourd'hui le chef de l'État roumain, juste avant des entretiens bilatéraux avec son homologue Jacques Chirac, ce soir donc à Bucarest. Jacques Chirac est arrivé sur place quelques heures après l'adoption d'une mesure qui devrait être bien accueilli par les participants du sommet. En Conseil des ministres ce matin à Paris, le gouvernement français a revalorisé les pensions des anciens soldats de l'Empire colonial. 80 000 anciens combattants sont concernés, notamment dans les anciennes colonies en Afrique noire et au Maghreb. Première réaction au Maroc ce soir avec Gabriel Méta.
Près de la moitié des anciens combattants concernés sont originaires du Maghreb. 15 000 Marocains, autant d'Algériens et quelques 10 000 Tunisiens perçoivent des pensions de retraite et d'invalidité. Leur montant, gelé depuis plus de 40 ans, n'avait été que très partiellement revalorisé en 2002. Et encore, les augmentations avaient été calquées sur le coût de la vie dans les pays d'origine. Ainsi, quand un ancien combattant français invalide touchait 690 euros par mois, un Marocain ne percevait que 61 euros. L'annonce du gouvernement français d'aligner les pensions des anciens combattants des ex-colonies sur celles de leurs compagnons d'armes de l'Hexagone est donc bien accueillie. L'association marocaine des anciens combattants se félicite certes de cette décision, mais note tout de même qu'elle arrive un peu tard. Selon elle, la majorité des personnes concernées sont aujourd'hui décédées. Pour les survivants, c'est la réparation d'un préjudice financier et au-delà, un acte de justice et de reconnaissance envers ces oubliés de l'histoire, dont le combat, les souffrances et le sacrifice ont réussi à changer la face du monde. À Tanger, Gabriel Méta pour Radio Vatican.
C'est une initiative inédite en Allemagne. Pour la première fois, Berlin a organisé aujourd'hui une conférence sur l'islam. Le ministre de l'Intérieur a réuni des représentants des organisations musulmanes et des responsables gouvernementaux. C'est le coup d'envoi d'une série de consultations visant à mieux intégrer les immigrés qui vivent en Allemagne. Les précisions tout de suite avec Nathalie Versieux.
La rencontre était historique. C'est la première fois, en effet, que le gouvernement allemand cherche à nouer officiellement le dialogue avec les 3,5 millions de musulmans vivant en Allemagne. Nous voulons que les musulmans d'Allemagne deviennent des musulmans allemands, rappelle le ministre de l'Intérieur, Wolfgang Schäuble, qui organise la rencontre. À terme, le ministère de l'Intérieur entend en effet parvenir à un accord sur l'enseignement de l'islam à l'école, comme cela existe déjà pour les religions catholiques et protestantes. Le gouvernement de Angela Merkel souhaite aussi définir les grandes lignes d'une formation en allemand des imams actifs dans le pays. Un compromis sera difficile à trouver avec les représentants de l'islam qui visent, eux, à obtenir le même statut, notamment financier, que les églises chrétiennes. Le climat dans lequel s'est ouvert la conférence, dont les travaux doivent durer 2 à 3 ans, est des plus tendus. L'annonce lundi de la déprogrammation d'un opéra de Mozart, dont une scène aurait pu choquer les musulmans, a provoqué un véritable tollé dans le pays. Il en va de l'avenir de la démocratie, assure à l'unanimité la classe politique déjà très irritée par les réactions au discours de Benoît XVI. Berlin, Nathalie Versieux pour Radio Vatican.
Et l'Allemagne accueille par ailleurs les pourparlers sur le nucléaire iranien. Le responsable de la diplomatie européenne, Javier Solana, rencontre en ce moment même le négociateur iranien, Ali Larijani. Énième rencontre pour trouver un compromis avant d'éventuelles sanctions des Nations Unies contre Téhéran. En bref, le vice-premier ministre palestinien libéré, en tout cas son avocat l'a annoncé aujourd'hui, un juge militaire israélien a ordonné ce matin la libération de Nasreddin Al-Sher, le numéro 2 du gouvernement dirigé par le Hamas, avait été arrêté le 19 août dernier par les forces israéliennes. En Irak, les violences se poursuivent. Les forces américaines ont mené un raid ce matin sur la ville de Bakouba. 4 terroristes présumés et 4 femmes ont été tuées. Des armes et des systèmes de navigation GPS ont été saisis. Violence également en Afghanistan. 14 talibans tués, cette fois 18 capturés dans l'est du pays. C'est un bilan donné par le ministère afghan de la Défense et de la Police. Par ailleurs, 3 soldats italiens et un interprète afghan ont été blessés aujourd'hui par une explosion au passage de leur convoi. C'était près de Herat, à l'ouest de l'Afghanistan. La lutte contre le terrorisme, il en est question ce soir à Washington. Le président Bush accueille les présidents pakistanais et afghans. Pervez Musharraf et Hamid Karzai tenteront ainsi de renforcer leur coopération à l'heure où les violences redoublent. Les précisions à Washington avec Marie-Christine Bonson.
La réunion trilatérale a pour objectif de renforcer le dialogue entre les présidents afghans et pakistanais à un moment où la résurgence des talibans et d'Al-Qaïda provoque les pires violences enregistrées en Afghanistan depuis l'invasion américaine de 2001. La rencontre au sommet intervient aussi à un moment où des tensions importantes se font jour entre les 3 alliés. George Bush a en effet indiqué récemment qu'il n'hésiterait pas à ordonner une opération commando contre Osama Ben Laden si des renseignements prouvaient que le dirigeant d'Al-Qaïda se trouve au Pakistan. La déclaration du président américain a amené Pervez Musharraf à souligner que si ce cas se présentait, le Pakistan gérerait la situation lui-même sur la base de sa souveraineté. Par ailleurs, Hamid Karzai s'est plaint à plusieurs reprises au cours des derniers jours de la passivité du gouvernement pakistanais face aux musulmans radicaux. Hier soir encore, le président afghan a appelé Pervez Musharraf à fermer toutes les écoles coraniques qui, et je cite M. Karzai, enseignent la terreur. Pour sa part, M. Musharraf a fait valoir que son gouvernement fait tout ce qu'il peut pour lutter contre Al-Qaïda et les talibans. Et il a affirmé qu'Oussama Ben Laden ne se cache pas au Pakistan, mais dans la province de Kunar, dans le nord-est de l'Afghanistan. Washington, Marie-Christine Bonzon, pour Radio Vatican.
Des excuses publiques. Le Premier ministre hongrois a demandé pardon aujourd'hui pour avoir menti sur son programme électoral de rigueur. Ce mea culpa intervient à 4 jours des élections municipales. Hier soir, 7000 personnes se sont à nouveau réunies dans le calme devant le Parlement à Budapest. 9e jour de protestation contre le chef du gouvernement. Le mouvement doit être cependant suspendu vendredi à l'approche donc des municipales de dimanche. Venons-en au jugement du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie aujourd'hui. Le TPI a condamné un ancien haut responsable politique des Serbes de Bosnie, Momcilo Krajisnik. Les précisions à La Haye, Thomas Bernard.
Momcilo Krajisnik, un des plus hauts anciens responsables politiques des Serbes de Bosnie, a été condamné à 27 ans de prison par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Les juges l'ont reconnu coupable de purification ethnique, un crime contre l'humanité commis lors de la guerre de Bosnie, un conflit qui a fait plus de 200 000 victimes. Ils l'ont cependant acquitté de génocide. La Chambre a en effet estimé que les actes de persécution, extermination, meurtre, déportation et transfert forcé de Krajisnik avaient un caractère génocidaire, mais selon les juges, l'intention de commettre un génocide indispensable pour une condamnation n'a pas été établie. Du haut de ses 61 ans, l'ancien président de l'Assemblée des Serbes de Bosnie a écouté les attendus sans broncher. Il avait plaidé non coupable et selon son frère, interrogé à l'issue de l'audience, il tentera d'obtenir l'acquittement en appel. Thomas Bernard à La Haye pour Radio Vatican.
Et j'ajoute qu'à Belgrade s'est ouvert aujourd'hui le procès de 10 complices présumés du fugitif Ratko Mladic. L'ancien chef de guerre est toujours introuvable. Les autorités serbes multiplient dernièrement les gestes pour montrer leur volonté de coopération avec la justice internationale. À Belgrade s'est refermé lundi les travaux de la commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Dans un message publié aujourd'hui, le cardinal Walter Kasper, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, s'est réjoui de la reprise des travaux après 6 ans d'interruption. Il a souligné l'ambiance fraternelle qui a dominé les discussions, tout en regrettant malgré tout des divergences au sein des représentants orthodoxes qui ont entravé l'avancée des travaux. La commission mixte tiendra sa prochaine session plénière l'an prochain en Italie. L'Estonie a ouvert aujourd'hui une enquête criminelle à la suite de la découverte dans le navire panaméen Probo Koala de résidus de déchets toxiques, des déchets semblables à ceux qui ont provoqué une catastrophe écologique à Abidjan, 400 tonnes déversées en pleine ville. L'association écologiste Greenpeace, qui a signalé la présence du bateau, salue l'ouverture de cette enquête. Écoutez la réaction de Yannick Vicaire, responsable de la campagne toxique à Greenpeace France et actuellement à bord de l'Arctic Sunrise.
Écoutez, c'est effectivement exactement ce qu'on attendait. Il va y avoir donc l'immobilisation de ce qui nous semblait être la pièce à conviction principale de ce scandale toxique dont a souffert la population d'Abidjan. Alors d'une part, je dirais que ça va permettre de mettre en place toutes les responsabilités dans cette affaire, que ce soit celle du navire, celle de son affréteur, ainsi que celle d'éventuels États membres qui ont, à l'exemple de la Hollande, laissé partir le navire malgré les réglementations en cours en Union européenne. Vous savez que le bateau était à Amsterdam avant d'atteindre Abidjan et que les autorités hollandaises ont eu la possibilité de se rendre compte qu'il y avait quelque chose de suspect dans ces fameuses eaux usées du navire qui ont été déversées à Abidjan. Et ils ont malgré tout laissé partir. Par ailleurs, je pense qu'il était assez indécent de voir ce navire continuer à vaquer à ses occupations comme si de rien n'était, alors que maintenant le bilan est à 8 morts à Abidjan et bon, il y a des milliers d'intoxications.
Des propos recueillis par Betsabe Salem. Et puis concernant l'impasse politique en Côte d'Ivoire, cette fois il en sera question le 7 octobre prochain à Abuja. La capitale nigériane accueillera un sommet des chefs d'État de la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. C'est une maladie méconnue, la cécité des rivières ou l'oncocercose transmise par un moucheron. Une réunion internationale s'est ouverte au Cameroun pour sensibiliser l'opinion. Plus de 300 délégués sont réunis actuellement à Yaoundé. On fait le point avec Fanny Pigeot.
Il faut mobiliser de nouveaux fonds, étendre dans la durée les plans de prévention. C'est le message que le programme africain de lutte contre l'oncocercose tenait à faire passer à ses bailleurs de fonds lors de cette réunion de Yaoundé. L'oncocercose est endémique dans 30 pays africains. 120 millions de personnes sont ainsi susceptibles de la contracter. L'exemple seul du Cameroun est parlant puisque sur 16 millions d'habitants, 10 sont exposés, 6 sont infectés et 32 000 personnes sont devenues aveugles après avoir été contaminées. Depuis 1974, l'Organisation mondiale de la santé, les États et les bailleurs de fonds se sont mobilisés pour faire reculer la maladie. D'abord fondée sur la lutte contre la simulie, la mouche vecteur du parasite, les programmes s'appuient depuis les années 80 sur un médicament distribué aux populations à risque et déjà malades. Il était prévu que le problème soit réglé en 2010. Ce ne sera pas le cas, prévoient les experts, en raison notamment des bouleversements politiques dans certains pays, mais aussi de la migration des simulies. Là où on pensait avoir éradiqué la maladie, elle réapparaît en effet. Il faut donc poursuivre les efforts, au moins jusqu'en 2015, demandent les experts. Fanny Pigeot, Yaoundé, pour Radio Vatican.
On vote demain en Zambie, élections présidentielles et législatives. La conférence des évêques a publié une lettre pastorale aux citoyens. Il est fondamental que cette paix soit maintenue pendant la période électorale, peut-on lire dans le texte. Dans leur message, les évêques encouragent les électeurs à exercer leur droit de vote, entamé dans le calme. La campagne pour l'élection présidentielle s'est quelque peu tendue ces derniers temps. Les sondages placent en tête le président sortant, Lévi Mwanawasa. Enfin, l'audience générale ce matin, place Saint-Pierre, devant quelques 30 000 pèlerins et touristes. Le pape a évoqué justement le tourisme à l'occasion de la journée mondiale aujourd'hui. Un phénomène social important dans le monde actuel, a souligné Benoît XVI. J'espère que le tourisme permettra de promouvoir toujours plus le dialogue et le respect réciproque entre les cultures. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. N'oubliez pas le magazine de Radio Vatican ce soir. Quant à nous, on se retrouve dès demain matin, 8h15. Excellente soirée à tous.
You're listening to Vatican Radio World News and the headlines this Wednesday evening. A US airstrike kills 8 people in Iraq. Concern mounts over rising abductions in Sri Lanka. And a Bosnian Serb leader is jailed for 27 years for war crimes. But first, Pope Benedict XVI gives his weekly general audience. Good evening, I'm Paul Anthem. Pope Benedict XVI returned to his catechesis on the apostles at his weekly general audience today, as Catherine Smybert reports.
I wish to reflect today on Thomas the Twin.
Speaking to tens of thousands of pilgrims gathered in a sunny St. Peter's Square Wednesday morning, Pope Benedict called to mind St. Thomas and the fourth gospel, in which his personality becomes almost clearer to us than that of some of the others of the 12 apostles.
It is most especially in John's gospel that we learn about Thomas. At a dangerous time in our Lord's life, when he decided to visit Lazarus in Bethany, it was Thomas who said, "Let us also go, that we may die with him." He shows us that the most important thing is never to distance oneself from Jesus.
Here, the Pope says, this apostle underlines that the life of a Christian is one spent together with the Lord Jesus at all times, in word and in deed. The Holy Father also looked at one of the most recognised passages about Thomas the Apostle and uses it to highlight the way our own doubt can lead us to spiritual growth.
A first episode in Thomas' life is well known to us all, said of the doubting Thomas, who says, "Unless I see in his hands the print of the nails and place my finger in the mark of the nails, I will not believe." Yet, once Jesus appears to him, he utters the most splendid profession of faith in all the New Testament, "My Lord and my God." Let us take heart from the life of Thomas. He comforts us in our uncertainty, and he helps us learn from Jesus the true meaning of mature faith, encouraging us to persevere as disciples of Christ.
Pope Benedict concluded his audience by recalling that today we mark the World Day for Tourism. It's an occasion, said the Holy Father, to celebrate an important social phenomenon in our contemporary world. He said that he prays that tourism might always promote greater dialogue and reciprocal respect between cultures and become an open door for peace and harmonious living.
Si oggi celebra la giornata mondiale del turismo.
Patricia Barnett is the director of the UK-based organisation Tourism Concern. She welcomed Pope Benedict's call for greater respect and solidarity for local people in tourist areas and suggests how we can make a difference to the local communities that we visit when on holidays.
Tourism can be a wonderful development tool to get people out of poverty. You can also ask your tour operator very basic questions. I can tell you that the small and medium operators, who often have a passionate love affair with the destinations that they visit, really want to make sure that local people benefit from tourism. So as much as possible, the best operators will use local guides. They will stay in locally owned hotels. They will ensure that their guests are eating food that's bought from local suppliers. And this is a real start in what we call supply chain, in supply chain management. They want to keep the locals happy as well as their customers.
That was Director of the organisation Tourism Concern, Patricia Barnett. And you can download the Vatican's formal message for World Tourism Day via the website www.vatican.va. I'm Catherine Smybert.
Turning to world news now, US airstrikes killed 8 people during a gun battle north of Baghdad today. US forces had responded to fire from a building in Bakuba during a raid in pursuit of suspected al-Qaeda militants. The military said 4 men, who it claimed were terrorists, were killed, along with 4 women. Staying in Iraq, a car bomb exploded near a crowded market in southern Baghdad's Shiite Biar district, killing at least 5 people and wounding 8 others. It was the latest in a series of suspected tit-for-tat killings between Sunni Muslim insurgents and Shiites. Among other incidents, 14 corpses were recovered in and around the River Tigris south of Baghdad, some beheaded and showing signs of torture. Afghan security forces killed 25 insurgents in a clash in the southern province of Helmand today, while NATO troops once again came under attack from bombers. The worst phase of Afghan violence since the Taliban were ousted in 2001 looms over talks in Washington, where President Bush meets the Afghan and Pakistani presidents today. Afghanistan's Hamid Karzai and Pervez Musharraf of Pakistan, major US allies in the war on terrorism, have been trading barbs over Afghan complaints the Taliban operate and get support from sanctuaries in Pakistan. Fears are growing in Sri Lanka about the number of abductions in recent weeks. The church in Sri Lanka has written to the country's president, asking for an inquiry to be set up following the abduction of a Catholic priest and his assistant. Police are investigating the spate of kidnappings, which has also included an eminent Tamil journalist who was released within a day in August. We spoke to Archbishop of capital city Colombo, Oswald Gomez, about these abductions and the hardships the church is facing to provide relief.
We as a Catholic Church have written to the president demanding an impartial inquiry into the loss of this good priest and his companion, and even elsewhere, not only in this case, but we have urged action against all such abductions, whether it be in the north, east, or even in the south. Priests and the clergy, they are doing a tremendous job in spite of the grave hardships that they have to suffer, because we had what was called the A9 route, the direct route from Colombo to Jaffna, which is being closed now because of the war situation. Traveling in that is not safe. And also any articles that are taken, especially food and fuel and those essential items, are being plundered on the way. So the government is trying its best to send things by ship, and that is also not so safe with the war situation. So within the means available, the church community is doing its utmost to bring maximum relief to the maximum possible number of people.
And that was Archbishop of Colombo, Oswald Gomez. Arsonists in Thailand touched 4 schools today in a possible act of defiance against the new ruling military council. The bloodless coup on September the 19th has been met with widespread criticism abroad, but only a few scattered protests in Thailand by pro-democracy activists. In an apparent attempt to appease its critics, the ruling military council has named dozens of prominent civilians as its advisers, although several of these say they haven't been informed. We spoke to Vice Chancellor of St John's University in Bangkok, Chanarong Montavecchianchai. He told us more about these appointments.
I think there are at least 2 or 3 committees appointed. One, the leading one, is what they call Economic Affairs Committee, led by the Central Bank Chairman, and also another 3-4 people in that. I think this is, they try to ensure the general public that they are doing their best for the country and choose the best people, honest, or at least generally regarded as honest, efficient and capable people to help them run the country. This is in advance or before the new prime minister is appointed, hopefully by early next week. Looking at the names of these people in the committees, people will put more trust in the coup leaders, because it seems that he keep his promise that within 2 weeks the coup leaders will hand over things to civilian to run the country.
And that was Chanarong Multivekianchai. Turning to news from Africa, US Secretary of State Condoleezza Rice today called for an immediate ceasefire in Sudan's western Darfur region and urged the Khartoum government to immediately accept a UN peacekeeping force. Meanwhile, in Salamia, Islamists disarmed hundreds of militiamen in the port of Kismayo today, seizing battle wagons and guns in a move to further cement their control over the city they took over this week. In Europe, the UN Yugoslav Tribunal today sentenced the former speaker of the Bosnian Serb Parliament to 27 years for war crimes, but acquitted him of genocide. Catherine Drew reports.
61-year-old Monsilo Krajisnik was a close aide to the former Bosnian Serb president Radovan Karadzic during the war in which some 200,000 people died. Karadzic is still on the run. Krajisnik had been accused of genocide, complicity in genocide, crimes against humanity and war crimes. However, the tribunal said there was insufficient evidence to prove the genocide charges, but have sentenced him to 27 years in jail for war crimes. The tribunal has only handed down two genocide convictions for Bosnian Serb officers involved in the Srebrenica massacre. Krajisnik has maintained his innocence throughout the trial, which lasted 2 years and 7 months, and heard testimony from 124 witnesses. Prosecutors argued that along with Karadzic, Krajisnik masterminded the campaign of ethnic cleansing aimed at driving out Muslims and Croats from large areas of Bosnia. I'm Catherine Drew for Vatican Radio.
Turning to news from the Vatican now, the president of the Pontifical Council for Promoting Christian Unity, Cardinal Walter Kasper, has expressed his surprise over a protest following the Orthodox Catholic dialogue in Belgrade, which concluded this week. Representative of the Russian Orthodox Church, Bishop Hilarion of Vienna in Austria, protested to Cardinal Kasper over the traditional order among the Orthodox churches, among which the See of Constantinople enjoys a primacy of honour. Cardinal Kasper spoke to us further about the matter.
We hope that the Orthodox churches can solve these questions in the very soon future, because they make the international dialogue very difficult. And so I can hardly understand the public protest. The representative of the Russian Orthodox Church published immediately after the council about one point of procedure. The value of this votation was clearly explained to the Russian Orthodox delegation.
And that was Cardinal Walter Kasper. And finally this evening, we reported yesterday how Archbishop Emmanuel Malingo of Zambia had been excommunicated for attempting to ordain four married men. Father Michael Hilbert, Dean of Canon Law Faculty at the Pontifical Gregorian University, explained what excommunication from the Church actually entailed.
Excommunication is a penalty, it's a censure, by which a person is excluded from the communion of the faithful. And it brings with it a certain number of consequences. The code limits itself to giving the effects, which are the deprivation of certain spiritual goods of the church. And they cannot receive the sacraments. That is one of the goods that is deprived, the sacraments. It's not used really very, very often at all. It's very rarely used, I would say.
And that was Father Michael Hilbert.